Radio Okapi. Okapi. Okapi service avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service qui s'intéresse aux mentalités. Que faire pour transformer la mentalité de l'homme congolais 61 ans après l'indépendance? C'est de cela que nous allons parler dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Alors, nous allons recevoir le professeur Augustin Mwendambale, historien de mentalité. Professeur, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour. Bienvenue. Aux auditeurs des Radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission. Nous recevrons également M. Justin Bendesana, coordonnateur adjoint de la cellule pour le changement des mentalités. Vous avez des questions et préoccupations, le standard est ouvert, composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Bien, toute l'équipe est en place pour vous servir. Marcel Ngombo assure la coordination, Tati Mapoukou à la réalisation. Et puis Jody Daniel Kachama est au micro à la mise en onde Jean-Claude Nsiala. Excellente condition d'écoute de cette deuxième partie de l'émission Okapi Service.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Que faire pour transformer la mentalité de l'homme congolais 61 ans après l'indépendance? Eh bien, la société congolaise est dominée par des antivaleurs depuis des décennies. Plusieurs compatriotes affichent des comportements contraires aux normes tolérables dans la société. Et on est dans la corruption, dans la tricherie, dans le non-respect des règles établies sur la route, voilà. Les gens n'ont pas l'amour du pays, on est dans beaucoup de mauvaises choses, eh bien. Alors, certains spécialistes qualifient tous ces comportements d'inversion des valeurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer la mentalité de l'homme congolais 61 ans après l'indépendance? Professeur Saint-Augustin Mwendambale, vous êtes historien des mentalités. Alors, la première question est de savoir qu'est-ce qui est à la base de cette inversion des valeurs que nous avons enregistrée dans la société congolaise depuis des décennies.
Oh oui, Monsieur Jody, il y a plusieurs facteurs qui concourent à la dégradation des mentalités. Et pour en découvrir les fondements, il faut absolument situer l'analyse à quatre niveaux. Le premier niveau, c'est celui de la famille. Et ici, je suis en train de développer ce qu'on appelle la théorie des phases. Famille, école, société et l'État. Au niveau de la famille, il est vrai que par rapport aux valeurs que nous avons apprises au sein de notre famille, s'il n'y a pas le suivi de la part des parents et s'il n'y a pas de rigueur dans ces suivis, les enfants finissent par violenter ou ne plus respecter les valeurs fondamentales qu'ils ont apprises pour faire partie de la famille. Vous avez interdit à vos enfants de ne pas rentrer à la maison tard à 22 heures. Une fois l'enfant, par orgueil ou par des mesures, il peut tester les parents. Il rentre à 22h05. Vous dites non, il est encore dans les bons. La prochaine fois, sur les 5 minutes, il faut s'ajouter 30 minutes de retard. Bon, je peux tolérer qu'on ne me dise pas que je suis un père fouettard. Et ainsi de suite, petit à petit, on arrive à se retrouver en face des dégradations des valeurs familiales qu'on a pris comme des valeurs de référence, parce qu'elles sont des valeurs édictées par la société, ça il faut l'avouer, acceptées par les parents comme étant les valeurs de référence ou les piliers des comportements éthiques. Et une fois qu'on a échoué au niveau de la famille, on envoie les enfants à l'école parce que la famille se sent démissionnaire parfois, l'école introduit un peu de rigueur. Et si cette rigueur faillit également, l'enfant commence à sécher les cours, l'enfant commence à taper sur les amis, à injurier les autres, à ne pas saluer les adultes. Si l'école ne vient pas au secours de la famille, la perdition devient petit à petit insupportable. Et après l'école, c'est la société qui accueille l'enfant. Il y a un certain nombre de valeurs auxquelles s'identifient les comportements déjà évolués au sein d'une société. Si l'enfant ne parvient pas à s'adapter à ces valeurs, à les accepter, parce qu'il y a un set de tolérance qu'il faut aussi envisager. Il faut que les enfants acceptent ces comportements qui le privent de la facilité, qui le privent des actes de pulsion négative. Il est vrai que la société va former des bandits, des clowns auxquels vous faites face aujourd'hui dans nos grandes agglomérations. Mmh. Et une fois que la société n'a pas aussi réussi complètement sa mission, c'est à l'État. L'État qui va faire intervenir la loi, les instruments qui sont à sa disposition. On sait qu'en éthique, on ne dit pas de recourir à la répression, mais je crois que de temps à temps, réprimer les actes de déviance n'est pas du tout faire d'un État un État qui prêche la torture ou un État qui ne respecte pas les droits humains. Je ne pense pas. Parce que c'est l'État qui est le dernier rempart. Il a les instruments, l'école, la famille, l'éducation, mais c'est lui, le destinataire, déjà qui sont formés à ces trois niveaux. Voilà comment est-ce que le changement de mentalité se complexifie en une seule phrase. Vous avez la structure mentale de l'être humain. Cette structure mentale est divisée en deux parties. Première partie qui correspondrait à l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droite. Cette première partie emmagasine les antivaleurs, les interdits. Et la deuxième partie emmagasine les valeurs qu'il faut appliquer, qu'il faut manifester. L'homme, devant les besoins, devant les difficultés de la vie, travaille avec l'une des hémisphères selon son tempérament, son contexte, son environnement. S'il veut vite réussir, s'enrichir, et que dans la case ou la boîte noire des interdits, c'est là où il y a la solution, n'est pas volée.
Bien. Alors professeur, oui. Nous avons merci à tous les internautes qui ont réagi. Ils sont nombreux à avoir réagi sur la page Facebook de l'émission. Je vais lire rapidement la réaction de Tamboué depuis la ville de Beni. Il dit ceci: pour transformer la mentalité de l'homme congolais, il faut que le Congolais prenne conscience, tout en distinguant le bien du mal, que les autorités puissent avoir le sens de responsabilité en mettant de côté les antivaleurs. On doit améliorer les conditions de vie des Congolais et faire appliquer la dictature modernisée. Il n'a pas expliqué ce que c'est la dictature modernisée. Professeur Mwendama.
Ouais. Oui, il est vrai. On ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. Hein, il faut absolument se faire violence à un certain niveau. La dictature est une mauvaise chose, mais parfois indispensable pour démarrer une action. Si les enfants n'ont pas une compréhension facile des phénomènes que vous voulez leur apprendre, il faut utiliser sa chicotte. Moi, je suis de ces pédagogues qui ne sont pas des pères gâteaux, mais des pères fouettards, comme point de départ. Alors, une fois qu'on a utilisé la chicotte, il est vrai que l'enfant, c'est une façon de le rappeler à la raison, à la normale, l'enfant peut être repêché. Donc la dictature, c'est pour ça il y a même aujourd'hui des prisons. C'est la dernière forme de la dictature, mais sous une forme libérale. Il faut, quand la pédagogie en douceur ne marche pas, recourir à la pédagogie qui peut corriger, qui peut éviter le désastre. Et c'est ce que j'appelle une dose de dictature, d'autoritarisme. Je préfère utiliser le mot autoritarisme à la place liée des dictatures. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur, parce que c'était mon éducation. Je suis passé par là. J'ai volé une fois un morceau de viande de la casserole de ma maman. Alors, la maman m'interpellant, j'ai dit non, c'est pas moi qui ai volé le morceau de viande de maman. Alors, je suis conscient, c'est moi qui en ai mangé. On a puni toute la famille. Et au moment où on a puni toute la famille, les autres garçons et les filles, j'étais triste dans mon coin. C'est à cause de moi que toute la famille est punie, que certaines personnes ne vont pas manger. J'ai pris conscience du danger du vol,
Professeur Mouindambalé, quand une personne détourne les deniers publics, vole l'argent de l'État, au-dessus de tout le monde, le problème c'est au niveau de la famille ou c'est dans la société, il a vu l'impunité, les autres voler, alors il entre dans la danse.
Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, le grand philosophe et naturaliste, avait dit « L'homme est né bon ». Mais c'est la société qui l'a corrompu, qui l'a perverti. Ça, c'est une première hypothèse. La société peut former ses propres koulounas suite à l'impunité qui règne, suite au désarmement, à la démission des parents des uns des autres. Comme aussi, il y a des enfants qui peuvent naître avec un caractère inné des parents. Les parents étaient fumeurs de chanvre. L'enfant a tendance, quand il y a quelqu'un qui fume du chanvre, pardon, vous voyez l'enfant qui remue ses membres, ses organes, pour montrer qu'il éprouve une certaine satisfaction. Et petit à petit, cet enfant va suivre la voie du chanvre, des fumeurs de chanvre. Donc, de deux côtés, les hypothèses scientifiques démontrent que la société peut aider quelqu'un à être repêché, comme aussi quelqu'un qui vit avec les défauts de la famille, dont les parents étaient des voleurs, des bandits, suite au regard sociétal, ils peuvent parvenir à changer de comportement et à s'adapter aux valeurs acceptées et partagées de tous. C'est ça le rôle de l'éthique. Et au finish, c'est le rôle également de la prison, c'est pas de tuer les gens, mais de rééduquer par rapport au comportement modèle, par rapport aux valeurs subliminales qui sont acceptées dans la société et partagées par tous.
Bien, on va accueillir deux auditeurs, Esokoa de Kindou et Justin Kalabia depuis Arou. Esokoa, bonjour.
Bonjour monsieur, je dis bonjour aussi à l'invité. Vous savez que je suis dans la semaine des récupérations.
Comment transformer la mentalité de l'homme congolais? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Ok, moi je voulais d'abord poser la question donc à monsieur l'invité. Et quelle différence est entre la mentalité, les comportements et l'habitude? Lesquels est grave? C'est ça la première question. La deuxième question, 61 ans de l'indépendance, je pense que la mentalité donc des Congolais est faible. Nous allons d'abord commencer par nos autorités. Ici à Kindu, il y a certains députés qui ont créé des bases. Vous savez, des bases de bandits. Alors ces bandits-là créent encore des problèmes très sérieux. Et ça se trouve dans les deux camps. Et ça crée aussi des problèmes très sérieux. On détient de leur mentalité. Donc on devrait d'abord commencer par nos autorités. Puis on va descendre. Ça, c'est un problème très sérieux donc de l'État. Donc, d'abord, la tête est la quai. C'est ça la première question. La deuxième que je voulais dire à monsieur l'invité.
Mais les autorités dont vous faites allusion sont issues, viennent de la société dans laquelle vous vivez.
Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas si ce sont des mentalités donc qui sont nées ou bien c'est accoutumance. Je ne sais pas comment parler de là, mais c'est l'invité va nous intervenir.
Voilà, vous avez dit que le changement doit commencer par les dirigeants, par ceux qui sont par nos autorités. Voilà. Et une autre question, rapidement.
En tout cas, je n'ai pas d'autres questions.
Bon, là, c'était même pas une question. Voilà, c'était juste votre contribution. Merci, Justin Calabia. Exactement. Vous êtes à Arou. Bonjour. Bonjour, Justin.
Radio Capi.
Quelle est votre question par rapport au changement de mentalité?
Oui, par rapport au changement de mentalité, en tout cas, j'aimerais m'adresser à l'invité du jour, M. Mouenamal, que je respecte beaucoup. Oui, quand il dit de la mentalité des enfants congolais, si nous faisons allusion aux écoles, je pense que dans beaucoup d'écoles, selon aussi la réforme, on commence même à interdire de chicoter un enfant. Lorsqu'un enfant commet un mal, on dit de ne pas le fouetter. Or, parfois, les enfants font le mal expressément, et lorsqu'on le fouette, bon, le ministère de l'enseignement, on dit que non, ça c'est mauvais. Or, à partir de ces fouets, si l'enfant avait mal fait, je pense qu'il ne peut plus répéter le mal, monsieur, j'ai dit. Et maintenant, je m'aimerais poser la question par rapport à l'invité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enfants, quand même, soient respectués, soit à l'école et dans leur famille? Ça, c'est la première question. La deuxième question, monsieur, j'ai dit...
C'est pas oui. Jeudi, c'est Jody, J-O.
Oui. Monsieur Jody.
Voilà.
Oui. La deuxième préoccupation est par rapport toujours à ce sujet. Vous voyez, il y a la plupart de nos enfants, ils manquent l'éducation familiale. Vous savez que l'éducation familiale, c'est la base. Lorsqu'un enfant un voleur soit chez eux à la maison et il va amener les vols même dans la société. Vous voyez, même à l'école, un élève qui vole, ça signifie que même cet enfant la vole, soit introduit sa mère dans la casserole de sa mère.
Ouais, tout commence dans la famille.
Et tout commence dans la famille, monsieur Jody. Et maintenant, moi, j'aimerais demander à l'invité, pourquoi nous, les Congolais, si nous parvenons soit à avoir soit un travail quelconque, nous avons toujours l'ambition d'avoir loin de ces services-là. Donc, nous sommes mal intentionnés, nous les Congolais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous, réellement, nous Congolais, nous puissions avoir une bonne mentalité ou un bon comportement?
Merci. Merci Justin. Merci société. Justin. Professeur Saint-Augustin Mouendambale et Sokoa veut savoir quelle est la différence entre la mentalité, le comportement et l'habitude. Et puis d'ici, il faut changer la mentalité du Congolais, il faut commencer par les dirigeants. Et Justin nous dit que c'est à l'école. Aujourd'hui, les enfants commettent des bêtises à l'école, on les fouette plus, on les laisse comme ça et voilà, ça aura des conséquences plus tard. Professeur Mouendambale.
Bon, écoutez, c'est une panoplie de questions un peu complexes où il faut parfois recourir à la notion de différence, distinguer qu'est-ce qu'est mentalité, qu'est-ce qu'est comportement, qu'est-ce qu'est habitude. La mentalité, c'est un état d'esprit, un ensemble de croyances que nous avons forgées à la longueur des années, depuis notre enfance. Et depuis même le moment où nous étions dans la vie embryonnaire. Donc la mentalité est symbolisée par des psychologues d'aujourd'hui, notamment Jung, par ce qu'on appelle la mémoire collective. Une mémoire qui englobe les valeurs négatives et positives. Négatives, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas faire au sein de la société, et positives, ce qui est autorisé à faire. Mais ces mentalités, où la mentalité est forgée par un ensemble d'habitudes. Et les valeurs dont on parle ici, ce sont les habitudes, les caractères autorisés. C'est ce qui constitue à la fin les valeurs qui sont stockées au niveau du mental de l'être humain. Et comme je vous disais, il y a deux poches. Valeurs positives d'un côté, valeurs négatives de l'autre. Et c'est à vous. C'est pour ça qu'on garde bien nos enfants, parce qu'ils n'ont pas la capacité de choisir, de trier. Mais quand on est adulte, on dit qu'il est devenu adulte, qu'il doit répondre de ses actes devant les cours et tribunaux. Il est devenu majeur, parce que vous avez les choix à opérer entre le bien et le mal. Entre ce qui est accepté, conseillé de faire, et le mal, ce qui est appelé à être évité. Alors, l'habitude, c'est ensemble du caractère. Les us et coutumes, quand les habitudes sont forgées maintenant en code, ils deviennent des us et coutumes qu'il faut respecter au sein d'une société.
Professeur,
alors,
professeur,
la manifestation de ces us et coutumes,
oui,
se réalise à travers le comportement, à travers l'expression corporelle, les agissements, les attitudes. Hein, donc, tout cet ensemble de comportements représente ou manifeste ou véhicule l'ensemble des valeurs, d'habitudes qu'on a stockées dans notre mémoire collective. Notion assez vague, mais facilement compréhensible. D'un côté, il y a ce que nous apprenons et les effets de ce que nous apprenons sur notre comportement devant la nécessité de se protéger devant les aléas de la vie.
Professeur,
alors, au sujet de la tête, commencez par la tête ou par la queue. Les Chinois disent que le poisson commence toujours à pourrir par la tête. Il faut commencer par la tête. Et c'est une approche que nous, le CEP, nous avons expérimentée et nous avons remarqué qu'il y avait une résistance au sein de notre société.
Professeur Mundamale, comment expliquer, par exemple, dans l'administration publique, le fonctionnaire de l'État arrive au bureau à 10h, à 11h, alors qu'il est censé être là à 8h30, j'imagine, et il vient, il signe la présence, et puis, bon, il s'en va autour de 14h, 15h, on ne travaille pas, on est en train de tailler bavette, parler politique, et puis, à la fin du mois, on attend les salaires.
Vous avez parfaitement raison. C'est lié à l'impunité, à des familiarités, au clientélisme, au favoritisme. Ça, je ne vous le cache pas. Et aujourd'hui, j'ai comparé devant les cours et tribunaux. Parce que chez moi, j'ai remercié 4 directeurs, l'un pour pratique de corruption, l'autre pour absentéisme professionnel. Et je vous dis, dans mon service, je suis un homme à battre. Parce que j'introduis les dons auxquels ils ne sont pas habitués à la fonction publique. Nous préparons une campagne sur ou contre l'absentéisme professionnel. J'invite tous les secrétaires généraux, chaque matin, les agents de l'OCEB, les OPJ, doivent prélever le nombre de personnes qui ont signé le registre de présence. Au début du travail, comme aussi dans l'après-midi, c'est-à-dire à la fin du travail, vers 15h. Vous voyez-vous, tout ça, nous sommes en train de forcer. Et je vous dis sincèrement que ce n'est pas du tout facile, parce que nous avons hérité de la colonisation, un adage qui dit « quand vous travaillez beaucoup, vous êtes un dingue, vous travaillez pour le chef ». Et les gens sont en train d'expérimenter ça, même pour le paiement des impôts. L'impôt est vécu comme une corvée, puisqu'à l'époque coloniale, il fallait faire, il fallait payer l'impôt. À défaut de payer l'impôt, il fallait cueillir quelques grammes de caoutchouc. Et quand on ne faisait pas, on se faisait amputer les jambes. Quand vous demandez aux Congolais l'impôt, ils croient que c'est un truc qui devait fonctionner essentiellement à l'époque coloniale. Aujourd'hui, ils ont obtenu leur indépendance. Ils ne peuvent pas être dérangés ni partis contre.
Professeur,
et moi, je vous dirai où est-ce que je n'ai pas été accusé.
Professeur,
quand j'ai limogé ces personnels véreux, on m'a accusé même auprès de la grande dame de la République, et même auprès de la présidence de la République. J'ai à me justifier devant les conseillers. Et il y a des gens qui se sont promenés avec des calicots. Dites, trop, c'est trop. Débarrassez-nous de Mwendambali. Il doit partir. Il nous prend pour ses enfants, tout ça. Parce que j'insiste sur cette notion exigeante.
Professeur Mwendambali.
Aujourd'hui, je suis un homme à battre.
Professeur Mwendambali, pour terminer, il y a un internaute qui a dit ceci. Floris qui nous a écrit sur Facebook. Il dit 61 ans après l'indépendance, un cours de sur le changement de mentalité doit être intégré dans le cursus de formation et le cours de civisme doit être valorisé dans l'éducation primaire afin d'avoir un Congolais avec une mentalité nouvelle. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Il a raison, il a parfaitement raison, 10 sur 10, à ce monsieur qui a réfléchi de cette façon-là. Nous le faisons déjà sur le terrain. Nous avons dit, il faut revisiter les manuels, les programmes scolaires, il faut introduire pas les cours de civisme, parce que auparavant c'était la morale ou la religion. Là, il y avait des rivalités entre religion et morale. Ce qui prie et ce qui ne prie pas. Mais aujourd'hui, il faut une terminologie intermédiaire, une terminologie plus ou moins mixte, qui relie les deux. L'éducation à la citoyenneté, c'est pas un mauvais concept. L'éducation à la citoyenneté, parce que la première démarche qui nous identifie à un État, à une nation, c'est notre citoyenneté. Et à partir de là, nous allons découvrir toutes les valeurs que la société nous impose. Notre devise, c'est justice, paix et travail. Partir de ces deux, de ces trois règles qui nous ont imprimées, montrer ce que notre comportement est en ordre par rapport à la notion de la justice qu'on nous recommande. Est-ce que le magistrat rend correctement la justice, la paix? Est-ce que nous aspirons, nous tous, à la culture de la paix? Est-ce qu'on n'avons pas des rivalités, des conflits entre nous, entre les tribus, et enfin le travail? Est-ce que tout le monde a droit au travail? Pourquoi il y a des inégalités dans le secteur de l'emploi? Autant de valeurs fondamentales, subliminales, à partir desquelles il faut démarrer pour forger, j'ai dit bien parce que c'est pas facile, forger la culture de la citoyenneté dans l'esprit de nos enfants. D'ailleurs, moi, je me suis toujours posé la question de savoir, même avec mes enfants, à quoi vous vous sentez être Congolais? Pourquoi on vous dit l'amour de votre pays? Pourquoi vous devez exprimer un amour envers votre pays? Il y a des gens qui ne comprennent pas, même nos enfants. Nous, on nous dit, papa, il faut aimer le pays. Hein. Mais moi, je trouve qu'on est mis en Europe.
Oui, professeur, on est arrivé à la fin de cet entretien. Alors, le Congo est en train de célébrer nous allons célébrer très bientôt les 61 ans de l'indépendance. Alors, pour que la mentalité change, il nous faut encore combien de temps? Est-ce qu'on peut espérer dans 5 ans, dans 10 ans, que les choses vont évoluer positivement?
Le changement de mentalité n'est pas un phénomène dont on peut apprécier les résultats en termes de temps ni de durée. C'est un long processus. Mais il faut que ce processus commence quelque part. Il faut que ce processus puisse avoir des modèles de référence. Nous n'avons pas un type d'homme congolais. Dites-moi un peu, par quoi est caractérisé l'homme congolais aujourd'hui, s'il peut être défini d'une manière brute? Quel est le type d'homme congolais? Le type d'homme congolais que nous apprenons à nos enfants, c'est celui qui a beaucoup d'argent, l'abondance, quelle que soit la provenance de ses biens. C'est celui qui fait l'Europe jour et nuit. C'est celui qui est chanté par nos orchestres, par nos musiciens congolais. Voilà le type d'homme congolais que vous êtes en train de former. Et si vous n'avez pas ce profil d'homme congolais auquel vous voulez arriver, il est impossible de réussir le changement de mentalité.
Merci.
Nous avons cité des hommes comme Iléo Lumumba, qui sont restés des modèles aujourd'hui. Et chaque fois quand je regarde, voilà, les modèles comme Lumumba, même une université, Lumumba n'existait pas au Congo. Mais en Afrique, ça existe, en Russie, ça existe. Vous ne pouvez pas se scandaler ça.
Professeur Mwendambali,
on
s'arrête là pour aujourd'hui. Vous allez encore revenir prochainement parce que je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Je rappelle que vous êtes historien des mentalités. Merci, excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, Jody. Merci, Okapi.
Radio Okapi, Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net.
Envoyez vos SMS et messages audio sur WhatsApp au 099 706 99 40. Bienvenue également sur la page Facebook du magazine Okapi Service.
Que faire pour transformer la mentalité de l'homme congolais 61 ans après l'indépendance? Nous recevons à présent Monsieur Justin Bendesana. Il est coordonnateur adjoint de la cellule pour le changement de mentalité, CCM en sigle, qui est une structure de la présidence. Monsieur Justin, bonjour.
Bonjour Monsieur Jeudi.
Bienvenue dans cette émission.
Merci beaucoup.
Dernièrement, vous avez lancé une campagne de changement des mentalités à l'intention des usagers de la route. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, en fait, nous avons observé, comme vous habitez la ville de Kinshasa, que la circulation au niveau de nos artères commençait à poser énormément de problèmes. Et nous avons identifié que ces problèmes étaient liés essentiellement à un manque de civisme routier. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il fallait pour nous que nous sensibilisions les usagers de la route au civisme routier pour que, autant que possible, nous puissions régler cette question d'un civisme routier observé par nos concitoyens.
Bien. Vous permettez que nous puissions accueillir les auditeurs. Nous avons Marcel Didier Passois de Luisa, Madame Evelyne, Charles Kisimba de Lubumbashi. Marcel Didier Passois, vous êtes à Luisa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à tous les co-débatteurs et à votre invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Monsieur Jody, vous allez vous rendre compte que, comme les autres en ont parlé en long et en large, les changements de mentalité, c'est une thématique, tellement abondante et complexe, dans la mesure où vous allez vous rendre compte avec moi, monsieur Jody, que les antivaleurs en République démocratique du Congo ont déjà même érigé domicile dans les praxis des Congolais et s'établissent déjà presque comme une règle. À mon avis, monsieur Jody, je pensais que c'est une gangrène héréditaire d'où il faudrait s'attaquer aux gènes. Si alors nous voulons réellement changer les mentalités, nous devons s'attaquer aux gènes. Quand je parle des gènes en termes biologiques, c'est pour que nous puissions voir...
Ça devient un problème génétique.
Un problème purement génétique qu'il faut combattre avec une thérapie bien dosée, monsieur Jody.
Une thérapie de choc.
Oui, cette thérapie-là, c'est, à mon avis, c'est la prise de conscience intégrale de toutes les parties prenantes dans cette gangrène. Donc, la prise de conscience
collective.
C'est de partir également de la politique des deux poids et des mesures. Et donc, une justice équitable aux contrevenants de la règle sociale, à cette règle sociétale, M. Jody. Je pense également que nous devons, comme les autres l'ont dit, nous devons diversifier les cadres de sensibilisation et de vulgarisation des valeurs éthiques et civiques dans les milieux sociaux et éducatifs. Ou alors, dans ces milieux-là, toutes les vertus doivent prendre l'ascenseur. Nous devons mettre aussi tout le monde dans les bonnes conditions purement socio-économiques, M. Jody.
Merci Marcel.
Pour citer M. Jody, nous devons également valoriser dans les services les principes de la méritocratie. Et non, le contraire, le népotisme, le clientélisme, comme les autres l'ont dit.
Bien
Voici
sûr.
Voici ma petite contribution.
Merci. Merci Marcel. Madame Evelyne, vous êtes à Kananga. Bonjour, on vous écoute. Madame Evelyne, vous êtes là? Elle n'est plus là. Charles Kisimba de Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour aussi à l'invité et aux nombreux auditeurs.
On vous écoute Charles.
En tout cas, c'est vraiment avec amertume et très grande désolation qui me caractérise. De prime abord, j'ai dit et j'insiste, sans peur d'être contredit, que Mobutu est parti avec l'éducation de ce pays. Cette évidence est tout simplement que, depuis le début de la Troisième République...
Mobutu était parti avec l'éducation... Oui.
Alors, on ne peut pas chercher la solution par les dos de la cuillère. La solution en est tout simplement qu'il y ait le fouet comme dorénavant et surtout qu'il y ait un président dictateur. En tout cas, ça c'est deux ingrédients. On continuera toujours à parler et à parler, mais rien ne va pas changer. Parce que le départ a été mauvais à partir de la colonisation. les Belges appliquaient le fouet. Alors les Congolais étaient habitués toujours au fouet. Et aujourd'hui, même les parents, par exemple, ici à Lubumbashi, qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous disent à tout moment que nous avons peur de fouetter nos enfants parce que le spiritualisme est venu aussi dans la fête, s'est invité dans la fête. Une fois vous touchez l'enfant, en tout cas, il y a risque de succomber et ça va encore engendrer d'autres problèmes.
Merci. Alors, merci Charles.
Alors pour...
oui. Oui. Merci Charles. Madame Evelyne, vous êtes de nouveau en ligne depuis Kananga. Pour changer, qu'est-ce qu'il faut, d'après vous, pour changer la mentalité de l'homme congolais 61 ans après? Après l'indépendance.
Oui, Daniel, merci de la parole. Le changement de mentalité requiert notre sens d'éthique. Nous avons hérité des mauvais comportements de notre colonisateur. Et pour ce faire, la responsabilité repose sur nos familles, les écoles, les églises, le gouvernement, et j'en passe. Néanmoins, pour y arriver, commençons d'abord par mieux payer les parents. Si les parents sont bien rémunérés pour ceux qui travaillent, ils ont du temps à s'occuper des enfants, de l'éducation des enfants. Si aujourd'hui nous avons une maléducation, cette maléducation a des racines dans la gestion gouvernementale. Les parents ne sont pas mieux payés, ils sont en train d'errer ça et là pour trouver de la nourriture, pour pouvoir prendre la famille en charge. Ils n'ont même pas le temps de pouvoir encadrer les enfants. Commençons par là. Et de la bonne éducation de base, c'est cette bonne éducation qui va accompagner l'homme jusqu'à la gestion, n'est-ce pas, de la chose publique. Si nous ratons au niveau des familles et que les églises ne s'impliquent pas, les écoles ne s'impliquent pas, eh bien, c'est au niveau de la société, on ne va rien récolter.
Merci, merci Madame Evelyne.
On est en train de promouvoir les droits de l'enfant. Néanmoins, les devoirs, on n'en parle pas.
D'accord.
On ne parle pas de devoirs des enfants vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de parents.
Merci, Madame Evelyne. Merci beaucoup. Monsieur Justin Bendessana, vous avez la parole. Vous avez suivi les différentes interventions des auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir? 61 ans, on va célébrer très bientôt les 61 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Comment changer la mentalité de l'homme congolais après toutes ces années?
Oui, je vous remercie beaucoup et je remercie les auditeurs pour l'intérêt qu'ils portent à ces sujets qui concernent la nation. Mais la question aussi pertinente à se poser, c'est comment on en est arrivé là. C'est par là qu'il faut commencer avant de pouvoir dégager des pistes de solutions. Voilà, il y a à la fois des causes endogènes et des causes exogènes. Mmh. Bon, il y a des causes qui sont lointaines, où on fait parler de les colonisateurs qui ont inculqué la culture de chicotes. Je suivais tout à l'heure le professeur Mwendamba lui parlant des impôts où il fallait contraindre les gens par la force pour pouvoir payer l'impôt. Mais il y a quand même trois déterminants essentiels qui, sur le plan interne, et qui sont à l'origine de ces dysfonctionnements de mentalité de l'homme congolais. Premièrement, c'est d'abord un déterminant politique. Politique, pourquoi? Parce que nos dirigeants, leur agir, et le pousse à prendre des décisions et qui ne concourent pas à aider la population à vivre dans une situation aisée. L'agir de l'homme politique nous a conduit, par exemple, à prendre des décisions dans ce pays de la zaïrianisation, la radicalisation. Mmh. Et ceci a eu une autre incidence sur le plan économique où on n'a pas su redistribuer équitablement le revenu national et du coup la pauvreté s'est installée. Et cette notion de la pauvreté c'est répandu au point que les uns qui sont placés au niveau de l'échelle du pouvoir cherchent à tout prix à s'enrichir rapidement et vite. Les autres, avec des concepts, bon, débrouillez-vous. Bon, les gens vont se débrouiller. Ils vont se débrouiller comment et de quelle manière. Voilà, article 15, qui était justement, qui a même été renforcé par nos artistes et musiciens.
Oui.
Voilà, ça, qu'est-ce qu'on dit? C'est partout où vous vous trouvez, faites tout ce qui est possible pour vous afin que vous trouviez de quoi vous permettre à survivre. C'est des choses dans un environnement.
On s'en fout des règles,
voilà,
tout ça.
Dans un environnement de précarité, vous dites à quelqu'un, débrouillez-vous. Et il se débrouille alors de la manière la plus désagréable possible. Et la pauvreté s'est installée au niveau de, dans le mental même du dirigeant. Alors il s'est dit, bon, écoutez, quelle sera la réaction de la population lorsque je quitte ce poste? Donc il faut que j'amasse rapidement pour que je maintienne les niveaux socio-économiques que j'ai acquis afin de ne pas être pris à partie par la population qui va commencer à dire « mais toi tu étais là,
moi, tu n'as
voilà,
rien fait. »
Voilà. Donc il y a ces déterminants. Bon, on va parler de ça. Il y a plusieurs facteurs. Mais il y a également un déterminant sociologique. Vous prenez une ville comme Kinshasa, où les gens viennent de toutes parts, avec des façons de se conduire et de se comporter et qui est différent. Alors on lui dit, l'équinois, c'est quelqu'un qui est très éveillé, il faut être aussi éveillé. Alors tout le monde est dans une position de défensive, au point que c'est les langages violents, c'est au point que vous constatez que
il y a pas de courtoisie routière.
Voilà,
vous
approchez quelqu'un. Donc c'est autant. Je ne veux pas trop m'apesantir parce que le temps qui nous est imparti est relativement court. Donc il y a tous ces éléments. Il y a à la fois les déterminants sociologiques, les déterminants économiques et les déterminants politiques qui ont eu une incidence très négative sur l'agir du Congolais dans son ensemble, sur le comportement et la conduite du Congolais. Et ces choses ont, à force de faire la chose, de répéter la chose plusieurs fois, ça devient une habitude, ça devient comme une façon de faire naturelle et normale. Et du coup, on se retrouve à une inversion. L'inversion des valeurs. Les antivaleurs deviennent
des valeurs.
Des valeurs deviennent des antivaleurs. Et du coup, on se trouve dans une société, comme disait le prof Mwenambali. Bon, vous n'avez pas de modèle, vous n'avez pas de référence. Il y a une crise sérieuse.
Il a cité Iléo, il a cité
Lumumba. Oui, ça c'est.
Au niveau politique, sur le plan politique.
Oui, écoutez. On a quelques personnalités que l'on peut citer. Il y a Lumumba, il y a sur le plan scientifique, vous avez des gens comme le professeur Liaou qui était d'une intégrité indiscutable. Mais vous avez sur le plan culturel des personnalités qui. Mais de nos jours, depuis un temps, les jeunes peinent à trouver des modèles.
Ils n'ont pas de référence.
Ils n'ont pas de référence. Et du coup, il faut pour ça procéder par trois choses essentiellement, pour notre part. La première chose part par l'éducation. Vous savez, chers amis, près de 87% de la population congolaise a moins de 44 ans. 87%. Et donc,
la population est jeune.
Alors, lorsque nous voulons investir sur la durée, parce que cette question de changement de mentalité, il est illusoire de penser que on peut, avec des formules baguettes magiques, chercher à résoudre cette question. Non, c'est un long processus. Il faut commencer à investir dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, à partir de l'éducation. Les secteurs de l'éducation et les secteurs primordiaux. Investir non seulement auprès des élèves, mais aussi auprès de ceux qui doivent communiquer les savoirs aux élèves. D'abord. Parce que si l'enseignant lui-même n'est pas un système de valeurs, il ne peut rien communiquer, on donne que ce qu'on a à ses enfants. Alors, c'est quoi? C'est reformuler, on a déjà commencé d'ailleurs cet échange avec les amis du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Nous avons également discuté avec le ministère des Affaires sociales. On a eu une commission au cours de laquelle on réfléchissait sur les contenus même du cours du civisme, du cours de morale, le cours de l'éducation à la citoyenneté. Quel type d'homme nous voulons avoir formé au Congo? Voilà. Le deuxième axe sur lequel il faut aller, c'est l'axe de sensibilisation. Parce que on ne peut pas changer la mentalité des gens sans prise de conscience. Or, la prise de conscience part
de la sensibilisation.
La sensibilisation, la conscientisation. Et le troisième axe sur lequel il faut aller, c'est la sanction judiciaire et administrative. Il est illusoire de penser que sans sanction, on peut arriver effectivement à changer de mentalité. Et bien sûr, tout dépend, soit que l'on se place en direction de dirigeants ou en direction du citoyen lambda. Voilà les axes sur lesquels nous pensons à agir pour changer les mentalités.
Monsieur Justin, je vais lire, c'est quand même révoltant, la réaction d'un auditeur de Lubumbashi, Piron Pagna. Il dit, en Zambie, on nous insulte, on nous traite des chibualala, c'est-à-dire des voleurs inaptes. Et un professeur zambien nous dit que tout est cher au Congo, sauf le Congolais lui-même.
Oui, c'est assez révélateur, hein. Parce que, bon, vous savez, le chef de l'État, lorsque il a pris le pouvoir, et il s'est rendu compte qu'il est impossible de pouvoir développer ces pays sans tenir compte du transformateur positif de la société qu'est l'homme. Il a placé l'homme parmi les quatre axes prioritaires de sa vision. Et c'est dans cette dynamique que l'homme a été pris pour être la cible sur laquelle il fallait travailler, il faut travailler efficacement pour apporter un vrai changement au niveau...
Même le développement,
au niveau de la nation. Mais si cet homme n'a pas de repères et que au prix de tout, il est appelé à trouver de quoi subvenir à ses besoins, ben, écoutez, on va le considérer comment? C'est révoltant ce que vous dites, si les Zambiens peuvent nous traiter de la sorte. Mais nous pensons très sincèrement qu'avec la volonté du chef de l'État, et nous, c'est là notre grande préoccupation, nous voulons que les uns et les autres emboîtent les pas au portage politique que le chef de l'État a fait de lutter contre les antivaleurs. Que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté de l'Assemblée nationale, que ce soit du côté, je peux dire, du Parlement, que ce soit au niveau des organes judiciaires. Vous l'entendez, vous le suivez, et il ne fait que dire cela. Et donc, il faut qu'on ait un consensus national autour de la question. Autant nous avons le consensus autour de la lutte contre les forces négatives à l'est du pays, autant nous devrions avoir un consensus autour de la lutte contre les antivaleurs. Parce que on a du chemin à faire. Lorsque les chefs de l'État s'est lancé dans ça, c'était sans tenir compte du procès de 100 jours qui nous a démontré qu'il y a encore du chemin à faire. C'était sans tenir compte de tout ce scandale de sabordage à volonté du système éducatif avec la gratuité de l'enseignement. Voilà. Donc, il faudrait qu'il y ait un consensus national autour de la question. Parce que, monsieur Jody, vous le savez, nombreux sont ceux qui disent il faut que ça change. Combien sont ceux qui changent lorsqu'ils sont devant les postes de responsabilité? Combien sont ceux qui commencent? Donc, là, aujourd'hui.
Quelqu'un a dit que c'est un problème des valeurs. Si on n'a pas eu ces valeurs, on n'a pas reçu l'intégrité, l'amour du prochain ou l'amour de son pays depuis la famille, il est difficile.
Oui, mais il faut que nous commencions. Parce que si nous prenons historiquement, Quelqu'un disait ici, Mobutu était parti avec l'éducation.
Avec l'éducation, oui.
Bon, mais combien d'antivaleurs ne se sont pas enracinés pendant le temps de Mobutu? La corruption, quand on parle du mal zaïrois, ça part de quelle époque? Donc, ce que nous vivons aussi aujourd'hui part d'une certaine époque. Et c'est la conséquence, la somme d'accumulation de beaucoup d'antivaleurs. Donc, il faut qu'on s'arrête. On doit s'arrêter et commencer, et on doit se mettre d'accord et commencer à travailler activement pour arriver. Et c'est ce que nous avons commencé autant que possible à faire. Mmh. Mais le niveau de la dégradation est très profond. Mais le changement est difficile, mais il n'est pas impossible.
Il est difficile, mais pas impossible.
Oui.
On va accueillir l'ingénieur David depuis Calémi. Bonjour.
David depuis Calémi. Bonjour.
Ingénieur David, merci de réduire le volume de votre radio. Vous allez sur ma partie de téléphone. Vous êtes là?
Oui.
Oui, quelle est votre question?
Moi, j'aimerais juste poser une question à l'invité par rapport au sujet du jour, au changement de mentalité. Nous avons constaté qu'au Congo, pour bien changer la mentalité, je ne comprends pas le comportement de l'homme noir. Et normalement, nous, en tant que citoyens, nous devons imiter le comportement même de nos militaires. Mais nous voyons ici au Congo, les militaires se comportent mal. Maintenant, comment nous pouvons suivre et imiter ce comportement? Parce que normalement, en tant que citoyens, c'est les autorités qui devraient bien se comporter. Nous sommes derrière eux. Tandis qu'elle se comporte mal. Ça, c'est un idée. Même s'il y a un problème ici, vous allez voir, même leurs décisions, ça ne plaît même pas à la population. C'est par rapport aux pareilles questions que j'aimerais poser à l'invité. Merci, j'ai dit Daniel Kachamou.
Bien, monsieur Justin, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bien. Dans cette affaire de changement de mentalité, il y a deux approches. Certains pensent qu'il faut aller par la force, et c'est celle que utilisent les dictateurs bienveillants et utilisent la méthode policière. Nous avons une illustration avec l'arrivée des musées. On a utilisé la chicotte.
La chicotte, et puis mais les gens sont devenus disciplinés.
Disciplinés, mais pendant combien de temps? Donc en fait, après, il y a eu comme une espèce de relâchement et les gens ont repris leurs anciennes habitudes.
Oui.
Mais il est bon, dans un pays comme le nôtre, de privilégier à la fois la sanction et à la fois la sensibilisation. Parce que la sensibilisation amène à une prise de conscience. Lorsqu'on prend conscience et qu'on se retrouve à 23 heures devant un feu rouge, on s'arrête sans que personne ne puisse vous interpeller.
Mmh.
Donc c'est à ce niveau que nous pouvons arriver petit à petit à influencer les choses, à aller plutôt positivement plutôt que négativement. Alors nous pensons que utiliser simplement la méthode policière sans l'autre méthode, ça ne sera pas efficace. Voilà.
Bien, donc la sensibilisation et puis la sanction.
Exactement.
Il faut agir des deux côtés.
Avec les deux paliers.
Alors, on va bientôt fêter l'indépendance. J'ai posé la même question à professeur Mwendambale. Ça peut nous prendre combien de temps? 5 ans, 10 ans, non? Ou bien c'est un long processus?
Effectivement, c'est un long processus. Nous avons des exemples, pas très loin de nous, mais juste nos voisins ici au Rwanda. Il a fallu 20 ans pour que nous puissions admirer l'ordre qu'il y a à travers toute l'Afrique. Tout le monde apprécie l'ordre qu'on observe au Rwanda. Il a fallu 20 ans. Ok. Bon, nous aussi, nous devons nous mettre résolument. C'est pourquoi je disais ici, monsieur Jody, considérer cette question, faire un consensus national autour de la problématique de la lutte contre les antivaleurs. Et il suffit, avec cette nouvelle génération de la gratuité que nous commençons à investir auprès de jeunes. Voyez, nous, à la coordination, nous avons deux stratégies. Ce que nous appelons la stratégie de remplacement et d'adaptation. La stratégie de remplacement consiste à investir sur la jeunesse. Et cette jeunesse commence à grandir avec de valeurs et il remplace la vieille génération qui était habituée à faire d'une certaine manière. Mmh. Auprès de la vieille génération, nous trouvons un modèle, des modèles qui peuvent prendre à bras le corps. Vous avez le cardinal Mosengo, c'est un exemple. Je dis, c'est un exemple. Bon, et qui, lorsqu'il s'élève pour parler, il est sorti de sa réserve. Vous vous souvenez, en traitant une certaine classe politique des médiocres. Bon, lorsque il porte la question de la lutte contre les antivaleurs, c'est quoi? C'est plusieurs personnes qui s'identifient à cette personne.
Et sa voix va porter, il va influencer exactement. Plusieurs.
C'est comme ça, au niveau sociétal, trouver différents modèles qui portent la question et qui s'illustrent en public parce que, vous savez, l'intégrité, c'est un risque.
Monsieur Justin, on n'a plus beaucoup de temps. On est arrivé à la fin de l'émission. Donc, vous allez revenir prochainement. On va encore organiser une émission là-dessus. Je rappelle que vous êtes Monsieur Justin Mendesana. Vous êtes le coordonnateur adjoint de la cellule pour le changement des mentalités.
C'est la coordination.
La coordination.
Voilà.
Merci beaucoup et à la prochaine.
Très bien.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.